Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à tous, il est 17h30, vous êtes à l'écoute de Syllab et c'est l'heure de l'inattendu. Yann Karski, mon nom est une fiction. D'après le roman de Yannick Hennel, mise en scène et adaptation Arthur Noziciel, avec notamment Laurent Poitrenaud. Laurent Poitrenaud, vous présentez avec Arthur Noziciel ce spectacle qui a eu déjà une longue histoire, qui avait notamment été présenté au Festival d'Avignon il y a quelques années et qui traite d'un sujet qui est d'actualité depuis des dizaines d'années, qu'il a peut-être encore plus vu une actualité brûlante. Mais en tout cas, on sent bien qu'en montant ce spectacle-là, Arthur Noziciel avait vraiment un rapport très proche à son sujet. Il était hanté, comme il pouvait le dire, et cela lui permettait aussi d'avancer dans sa propre histoire. Est-ce que toi, Laurent, tu avais ce même genre de rapport avec cette histoire-là, ou en tout cas, comment tu as vécu le rapport d'Arthur avec tout ça ?
Moi, je n'ai pas, contrairement à Arthur, dans ma famille proche, enfin, dans ma famille tout court, de gens qui sont morts dans les camps. Je n'ai pas cette histoire, de la grande histoire, dans ma petite histoire familiale. J'ai des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale via mon grand-père, via mon père, mais pas de cet ordre, pas de cet ordre de la Shoah. Après, en même temps, moi, vers 16 ans, 15-16 ans, via des profs d'histoire et des profs de philo, mon premier choc, ça a été évidemment Nuit et brouillard d'Alain René. Et très vite derrière, j'ai vu Shoah de Klaus Landsman dans son intégralité. Et c'est vrai que ça a été deux films qui m'ont profondément marqué et qui, par la suite, m'ont... Je me suis senti comme ça me concernait. Alors, je pense que c'est un peu absurde de dire ça, parce que je pense que ça concerne tout le monde. Mais à l'époque, d'un seul coup, il y a eu une obsession de ma part d'aller lire tout ce qui pouvait s'être écrit. Alors, évidemment, les textes de Primo Levi, de Delbault, de Georges Sempron, enfin, tous les romans. Mais également des textes de sociologie, d'historiens qui avaient travaillé sur des aspects très, très techniques, par exemple, de la construction des chambres à gaz. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui m'a absolument hanté, comme dirait Arthur, et en tout cas qui m'appartenait. Et donc, ça m'a accompagné tout au long de ma vie depuis l'âge de 16 ans. Maintenant, à part accumuler des informations, des lectures, je n'avais pas non plus d'au-delà. C'est-à-dire, je ne voyais pas quoi faire de plus. Et heureusement, arrive voilà, un jour, Arthur, avec ce projet d'Yann Karski, l'adaptation du roman d'Yannick Hennel, qui d'un seul coup était comme une opportunité pour moi d'enfin pouvoir faire quelque chose de toute cette connaissance que j'avais accumulée, mais d'en faire quelque chose de sensible, en tout cas via mon art, qui est l'art de l'acteur, l'art du théâtre, et que quand le théâtre peut permettre de traverser ce genre d'aventure, de participer en l'occurrence là très concrètement à ce travail de mémoire, de messager, de transmission, ça donne ses lettres de noblesse à son métier.
Dans quelle mesure ce combat qui nous hante, celui des Juifs, de leur extermination, de la mémoire qu'on doit en faire, doit aujourd'hui nous servir dans le temps présent ?
Pour les gens qui viennent voir le spectacle, il est évident que dès qu'on emploie le terme dans le spectacle de réfugiés, alors évidemment de réfugiés juifs dans l'évocation qu'en fait Yannick Hennel, le mot réfugié sonne très fort par rapport à le monde dans lequel on vit en ce moment. Les réfugiés syriens, ce qui se passe en Syrie depuis des années, qui effectivement était un terme qui à la création, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, était moins sur le devant de la scène, alors que ça existait déjà. Mais maintenant, cette actualité-là, on la connaît, on en a des images, on est abreuvé d'images. Et pourtant, comme Yann Karski a pu le vivre, reste un silence insondable et une réalité qui est pourtant à nos portes. Donc en ça, je pense que le spectacle résonne au-delà de la propre histoire qu'il évoque de l'extermination des Juifs et de la Shoah. Il évoque tout à fait maintenant un présent dans lequel on vit. Et c'est vrai que je pense souvent à cette phrase que j'ai découverte grâce à Yannick Enel quand il cite Franz Kafka, où il dit... il parle de l'histoire mondiale de ton âme. Et on a l'impression que l'histoire mondiale se passe très loin de nous et à chaque instant elle semble avoir lieu sans nous et à la fin on se rend compte que cette histoire est celle de notre âme. Et ça me frappe beaucoup cette phrase parce que je pense qu'en ce moment ce qu'on vit, malgré nous, dans le secret de nos cœurs, de nos âmes, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de nous forger, de nous transformer sans qu'on le sache. Et je pense que je ne sais pas quel type de répercussions ça va avoir dans les prochaines années, mais ça s'en a une, c'est sûr.
Yannick Enel, quand il parle de Karski, montre aussi à quel point il y avait une sorte d'indifférence ou d'ignorance feinte, même à la libération de ce génocide qui avait pu avoir lieu. Cette ignorance que Karski pouvait déplorer, voire même incendier à sa façon, est-ce qu'on la retrouve, selon toi, aujourd'hui aussi dans l'ignorance de toutes ces migrations, de cette volonté d'être réfugié? Est-ce qu'il y a un côté... peut-être bon méchant justement qu'on retrouve un petit peu? Est-ce que tu penses que les gens voient vraiment cette réalité en face, et notamment les pouvoirs publics, ceux qui peuvent avoir un impact sur tout ça?
Non, je pense que l'écho qu'on a, c'est que Yann Karski est confronté à la real politique, comme on dit, c'est-à-dire parce qu'après il y a eu deux temps dans le rapport à l'histoire, je pense, de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Pendant très longtemps il a été dit qu'en fait on ne savait pas, qu'on ne pouvait pas savoir, qu'il n'y avait pas assez d'éléments, il n'y avait pas comme on pouvait avoir maintenant de photographies, en tout cas il y en avait beaucoup moins. Donc c'est pour ça que en fait finalement les gens n'avaient pas agi. Et puis il y a eu un deuxième temps d'une autre frange d'historiens qui ont continué à travailler sur les archives, sur les documents classés secret défense qui commencent à pouvoir être en accès libre et qui finalement démontrent que au début on disait non, les gens ont vraiment découvert en 44, puis finalement finalement 43 il y avait déjà des informations, et puis avec des gens comme Yann Karski, 42 non, et puis on commence à savoir que voilà, c'est depuis très tôt en fait les alliés savaient. Après, pourquoi elles ne sont pas intervenues, il y avait sans doute encore une fois des questions d'ordre de réel politique, c'est-à-dire sur quoi on accentuait. En ça, on peut retrouver effectivement des échos actuels sur une forme d'immobilisme qui est toujours matinée, de dire non, mais vous savez, c'est plus compliqué que ça, on ne peut pas tout faire. Et je pense que oui, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Ouais.
Il n'y a pas eu de vainqueurs en 45, il n'y a eu que des complices et des menteurs. Est-ce qu'il y aura des vainqueurs, notamment si on prend un cas concret de cette guerre en Syrie, de ce combat mené?
Non, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire n'est pas univoque. C'était très intéressant de voir que si on posait, j'avais lu un article là-dessus, que si on posait la question aux Français, genre dans les années très très proches de la libération, de la fin de la guerre, qui avait fait basculer la guerre, quel type d'alliés avait... C'était les Soviétiques. C'était la Russie. Enfin, les Soviétiques, l'Union Soviétique. Et ensuite, cette histoire s'est transformée, la mémoire collective s'est transformée. Et si maintenant on repose la question aux générations actuelles, ceux qu'on fait basculer, c'est les Américains et les Anglais. Donc, comme quoi, le rapport à l'histoire, à qui a gagné, qui a aidé à, change selon aussi une lecture du présent. Donc, qui en ce moment sont les vainqueurs? Moi, je pense qu'il n'y a surtout que des perdants. Et que peut-être, en ce qui nous concerne, on n'a pas encore vraiment ressenti ce que c'est de perdre. Je pense qu'on va le ressentir dans plusieurs années si les choses bougent pas. On va dire que pour l'instant on serait dans un statu quo en ce qui nous concerne, mais je pense qu'on a déjà perdu. Et puis quant aux autres perdants, c'est les réfugiés qui meurent en mer, qui meurent sur place. Donc il n'y a que des perdants, ça c'est sûr.
Yann Karski, Mon nom est une fiction, d'après le roman de Yannick Enel, mise en scène et adaptation Arthur Noziciel, avec notamment Laurent Poitrenaud. Mon nom est une fiction présente justement cette défaite un peu généralisée, a créé beaucoup de réactions à sa sortie, notamment, on le disait tout à l'heure, à la présentation lors du Festival d'Avignon, avec un article du Monde qui titre « Avignon rate son ouverture ». À côté de ça, l'Express peut dire « Il y a des spectacles qui résument une vie, une douleur, une morale, des spectacles qui vous contiennent tout entier et vous révèlent à vous-même. Yann Karski, Mon nom est une fiction, est de cela ». Ce spectacle doit être vu absolument. Vous avez voulu vraiment faire une interprétation fidèle du roman de Yannick Enel aussi, ou en tout cas dans la forme. Comment est-ce qu'on, en tout cas, avant d'aller dans le contenu, comment est-ce qu'on prend ce genre de critiques par rapport à son travail?
Moi, je lis plus les critiques. Je les lis plus parce que je m'en protège. Alors c'est récent, hein, c'est pas non plus. C'est depuis un peu quasiment autour de la mouette. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de festivals d'Avignon. Alors le festival d'Avignon, c'est intéressant parce que c'est une sorte de focus, d'un seul coup, d'un coup de projecteur, d'une intensité folle. C'est en ça que c'est assez merveilleux de pouvoir jouer au festival d'Avignon. En plus, moi, j'étais très chanceux. J'ai eu la chance de jouer des grands spectacles à Avignon dans des lieux magiques. Donc j'ai connu Avignon comme on peut le connaître de la plus belle manière. Après, dans l'autre sens, ce coup de projecteur, évidemment, génère aussi de l'hystérie dans les rapports. C'est-à-dire qu'à Avignon, c'est pas qu'on aime un spectacle, c'est qu'on l'adule, c'est qu'on l'adore, c'est que c'est génial. Et puis on n'aime pas juste un spectacle, c'est qu'on le conchit, on l'exècre, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'entre-deux, il n'y a pas beaucoup de subtilité, en tout cas au moment du Festival d'Avignon. Mais ce qui est le jeu, c'est un peu l'arène, voilà, c'est pouce levé, pouce baissé. Bon, une fois qu'on sait ça, que tu connais un peu les jeux du siècle, tu as compris à peu près les règles du jeu, voilà. Après, sur les critiques, ben, elle aussi joue ce jeu-là, que ça soit de journal à journal, c'est-à-dire que des fois, les journaux, au-delà même du spectacle, se répondent, c'est-à-dire, en fait, ton spectacle devient juste un enjeu entre différents points de vue. Et puis, surtout, moi, à force d'en lire des critiques, ben, je me suis bien rendu compte, au bout d'un moment, qu'aucune ne m'apportait rien sur le spectacle, c'est-à-dire que moi, je savais quoi penser du spectacle dans lequel j'étais, donc je n'en apprenais rien. Donc, d'une certaine manière, maintenant, en ce qui concerne les critiques précisément, je pense qu'elles font leur travail. En plus, on fait un métier public, on fait un métier exposé à la critique. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est le jeu, hein, personne ne m'a forcé. Mais par contre, voilà, chacun fait son travail. Ils font leur travail, moi, je fais le mien. Après, sur là, ce que vous lisiez, bah voilà, par exemple, c'est deux points de vue très opposés, très tranchés. Je pense que Le Monde... cet article, ils auraient pu l'écrire, je pense, avant le spectacle. C'est-à-dire que je pense que Le Monde était déjà dans une position, en tout cas la journaliste, en l'occurrence, qui avait décidé d'écrire sur le spectacle. Je pense que cet article-là, elle aurait pu l'écrire avant même de voir le spectacle. Il était déjà pré-écrit, de certaine manière, au sens où il y avait une volonté de réactiver cette polémique qui avait eu lieu autour du livre, qui a été très violente. Pour Yannick Enel, ça a été une polémique d'une grande, grande violence. Avec en gros ces détracteurs qui disaient la fiction ne peut pas prendre en charge l'histoire, elle ne peut pas faire dire n'importe quoi au personnage de l'histoire, on ne peut pas réécrire l'histoire, enfin comme s'il y avait l'idée de réécrire l'histoire. Et au contraire, d'autres en face qui ont été d'ardents défenseurs, qui ont dit si, il faut que l'art, la fiction prenne en charge aussi cette question, pas pour remplacer ni les historiens ni les philosophes ni qui que ce soit, mais pour que une autre parole puisse s'entendre, un autre point de vue puisse s'entendre pour faire entendre d'une autre manière cette histoire. Et ce qui était assez beau, en fait, dans le processus, comme Arthur avait choisi de très, très tôt, alors que les gens, au début, ont cru qu'il allait adapter que ma partie que j'ai en charge, c'est-à-dire la partie fictionnelle, le Karski rêvé par Yannick Enel, qui fait un peu monologue de théâtre, tout le monde pensait qu'il allait monter que cette partie-là. Mais ça n'avait pas de sens au sens où il voulait suivre le processus de création de Yannick Enel qui crée en fait une fusée à trois étages avec une première partie qui est plutôt une description extrêmement pointue de documentaire, donc le documentaire comme un point de vue possible sur l'histoire, une deuxième partie qui résume l'autobiographie de Yann Karski qui est un autre point de vue sur l'histoire, du point de vue même de la personne même, mais qui est un autre point de vue, et puis on va enfin à la fiction. Donc sans ça, moi quand j'ai relu les choses sur la polémique du livre, je me disais, mais c'était quand même prendre les lecteurs pour des bonnets, quoi. Alors que Yannick Enel était très... il prenait justement, je trouve, le lecteur par la main pour l'emmener vers la fiction. Il n'essayait pas de l'embobiner. Et donc, cette partie fictionnelle qui a posé beaucoup de problèmes, entre autres, par exemple, les bâillements de Roosevelt, la digestion de Roosevelt, de l'extermination des Juifs, mais surtout ce bâillement, il écrasait un bâillement à chaque fois que je parlais de l'extermination des Juifs, comme dit Yann Karski dans le texte que j'ai à dire. Finalement, n'était qu'une extrapolation poétique d'un silence réel des Alliés. Et c'était une licence poétique. Après, ce qui a été beau dans le processus, et c'est pour ça que l'article du Monde finalement a fait un peu flop à Avignon, c'est que toute la polémique qui avait eu lieu sur la fiction. Et comme Arthur a choisi de monter les trois parties, et que ce sont des parties arides, c'est des parties, mais en même temps c'est un processus pour aller vers la fiction, finalement la fiction était souvent vécue par les spectateurs comme une libération, comme quelque chose où on disait « Ah, j'ai de l'espace pour entendre ça, j'ai de l'espace pour entendre cette grande histoire, j'ai de l'espace pour être touché, j'ai de l'espace pour ça ». Et donc finalement, cette polémique s'est retournée comme un gant, et c'est QFD ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que ben oui, la fiction a sa place et peut avoir son rôle quant à faire entendre cette histoire, cette parole, cette mémoire, avec nos moyens, avec des moyens éthiques, avec des moyens, voilà, mais en tout cas, elle a sa place. Et donc c'était assez beau parce que finalement, nous, vraiment autour du spectacle, on n'a jamais connu cette polémique, elle a tenté d'être relancée au moment du festival, suite à la polémique du livre, mais objectivement, très vite, une fois le spectacle vu, en fait, personne n'est... Parce qu'en fait, il n'y avait plus de débat. La question ne se posait pas. Voilà.
Les journalistes qui veulent peut-être faire vendre quelques papiers, qui se préoccupent moins peut-être de l'extrapolation poétique, en tout cas, c'est...
Non, mais c'est un vrai point de vue. Il y a une vision tranchée, hein, je veux dire, qui ne date pas du livre de Yannick Enel. Hein. On peut se souvenir des films de Spielberg, on peut se souvenir des films de... La vie est belle de Benigni, enfin voilà, il y a toujours eu des histoires sur est-ce que la fiction, est-ce que l'art en général peut s'emparer de cette question-là et qui pose des vraies questions éthiques, parce qu'après on peut discuter de comment tel ou tel média, cinéma prend en charge cette question-là, des fois peut-être de manière effectivement trop désinvolte et il peut y avoir débat. En l'occurrence, je trouve qu'on reste dans une rigueur éthique dans notre projet qui tient bien la ligne, quoi. Voilà.
Sur d'autres sujets, j'aimerais bien te faire approfondir un peu sur cette idée d'extrapolation poétique et du rôle de l'art de créer ces espaces où les gens peuvent s'approprier certains sujets. C'est vraiment quelque chose de majeur d'utiliser cet outil qu'est le théâtre, qu'est la comédie, pour pouvoir justement aborder des sujets sans qu'ils soient aussi graves qu'un article de presse, aussi graves qu'un documentaire, et que les gens se sentent peut-être plus intimes, plus avoir le droit d'avoir une personnalité au milieu de tout ça.
Oui, c'est-à-dire d'avoir que moi, ce que j'aime bien dans la notion du théâtre vu par Arthur, c'est une vision du théâtre, qu'on peut appeler du théâtre d'art. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, théâtre d'art? Ça veut dire un théâtre avec une certaine forme d'exigence, que ça soit d'ordre de l'ordre dramaturgique, de l'ordre scénique, scénographique, esthétique, qui fait travailler les gens. Je sais que, voilà, quand je joue Yann Karski, je sais bien que ce n'est pas un spectacle facile. C'est un spectacle où les gens doivent accepter une certaine disponibilité, un certain travail. Mais moi, je n'envisage mon métier que comme ça, c'est-à-dire que tout le monde soit au travail. Et quand je dis au travail, c'est-à-dire que nous, on n'impose pas une vision, c'est qu'on impose un objet, on donne à voir un objet, mais qui laisse assez d'espace pour les spectateurs, pour rêver, pour retourner à eux-mêmes d'un point de vue sensible, et qui fait que, d'un seul coup, se passe entre nous deux cette chose qu'on va appeler le spectacle. Le spectacle, il a lieu entre nous deux, entre le spectateur, voilà, parce que chacun amène son imaginaire. À partir du moment où le théâtre arrive à produire ça chez les spectateurs, bah, je me dis, on a fait notre travail. Et c'est exigeant, et ça demande à être exigeant pour soi-même et pour les gens. Enfin, voilà, j'aime bien cette idée de vivre un moment, et pas juste de consommer un moment.
Vivre un moment, c'est aussi avoir une certaine exigence intellectuelle. On est loin du divertissement pour ça. Là, tu parlais de se laisser triturer un peu le cerveau. C'est quelque chose qui est important dans les spectacles que tu mènes, toi, ou que tu acceptes en tant que comédien.
Bah, oui, mais moi, j'aime aussi... Là, j'ai joué, c'était l'année dernière, j'ai joué l'avare. Bon, l'avare, on ne se triture pas le cerveau de la même manière. Mais en même temps, c'est la question de l'éthique ou la question du placement. Elle est toujours, en fait, quoi que tu fasses. Par exemple, c'est vrai que l'avare est une pièce comique, on va dire. Si je parle de l'avare, c'est une pièce drôle. Mais même sur la question du comique, tu peux te poser des questions. Quel type de rire j'ai envie de provoquer chez les gens? Est-ce que j'ai envie de provoquer un rire qui va élever, ou un rire qui va un peu être rabaisser tout le monde, un peu à la petite semaine? Voilà, on fait des petits gags et puis ça fait rire tout le monde, mais ça n'élève pas. Et pourquoi on aime Keaton, pourquoi on aime Chaplin, pourquoi, évidemment, je cite les plus grands, mais parce que derrière le rire, d'abord, il y a énormément de travail, et puis surtout, c'est un rire qui tire vers le haut, c'est quelque chose qui a à voir avec une certaine forme d'humanité. Après, on sait très bien qu'il peut y avoir un rire qui rabaisse, comme il peut y avoir un type d'émotion aussi, de qu'est-ce que tu vas chercher, quel type de larmes tu vas aller chercher chez les gens, avec des sales moyens, avec des sales trucs, qui, oui, vont faire pleurer, parce que tu vas mettre une bonne musique au bon moment, enfin, je sais pas comment dire, et puis au final, ça sera une émotion un peu frelatée, alors que tu peux très bien être ému d'un seul coup par juste une parole pure. Et d'un seul coup, ben, je sais pas, tu sors plus grandi. Et moi, je pense que j'ai toujours voilà, souci de dire essayons de sortir vers le haut, par le haut en tout cas.
Pour ce spectacle, là, sur des questions un peu plus techniques, vous avez travaillé avec Miroslav Balka, vidéaste plasticien polonais. À la voix, on a Marthe Keller aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été... Est-ce qu'il y a une intention particulière dans les personnes qui ont été sollicitées sur ce spectacle?
Arthur travaille beaucoup sur l'intuition. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et de belles intuitions. Et c'est vrai que je crois que c'était pas un hasard. Alors si, c'était un hasard aussi, parce qu'il avait vu par hasard très peu de temps avant le travail de Valka, entre autres à La Tête Moderne, une œuvre qui l'avait beaucoup marqué. Il a eu l'intuition qu'il pouvait faire appel à cet homme qui effectivement était polonais. Donc je pense qu'il y avait quelque chose dans la tête d'Arthur d'aller chercher aussi quelqu'un de la Pologne qui travaille sur la question de la mémoire, sur la trace, qui était complètement en écho du spectacle. D'aller chercher Marthe Keller, qu'il connaissait depuis longtemps, avec qui il a envie de travailler, avec cette voix incroyable et surtout cet accent, évidemment, puisqu'elle est suisse-allemande. Donc d'un seul coup, ça sonne aussi. Et c'est important que d'un seul coup, ça résonne aussi via ce filtre-là. Il y a également Ricardo ou La Lumière qui sont des Américains. Effectivement, d'un seul coup, il y avait toute une communauté large. Et je pense que ça avait... je pense qu'il y a eu un souci de la part d'Arthur de réunir une communauté la plus large, une génération aussi, parce que globalement, on tournait autour de, à l'époque, la quarantaine. Qui pour la plupart n'avaient pas comme moi n'avaient pas d'accès, enfin de lien précis familial intime, contrairement à Arthur, avec l'histoire de la Shoah, mais qui en même temps réunissaient des gens que ça concernait, et d'où par exemple aussi cette envie qu'a toujours eu Arthur d'entourer les répétitions, de comment il prépare des répétitions. C'est vrai que le premier jour de répétition, qui était même en amont des répétitions, où il a réuni toute l'équipe, et quand je dis toute l'équipe, c'est bien évidemment des acteurs, mais des techniciens, des relations publiques, des attachés de presse, tous ceux qui allaient travailler sur le spectacle. On s'est tous retrouvés au mémorial de la Shoah à Saint-Paul à Paris, avec Cathy Hazan, une historienne absolument merveilleuse, qui nous a fait une petite remise à niveau en visitant le mémorial. Et c'était passionnant de discuter avec cette femme, de se réactiver la mémoire sur une histoire qu'on a l'impression de connaître, parce que des fois, des gens peuvent nous renvoyer ça. Là, encore récemment, un jeune homme qui, dans une bonhomie et une naïveté, je trouve à la fois touchante et effrayante, me disait ouais, c'est marrant, parce que justement, ça me faisait rien. Puis je me dis oh, je sais pas, peut-être la Shoah. Je sais pas, on en a beaucoup parlé, non, déjà. Enfin, je sais pas, voilà. Ouais, bon, ok. Donc, comme quoi, il faut continuer à en parler pour dire que c'est important d'en parler. Donc, tout ça pour dire que c'était important, par exemple, ce démarrage. C'était très symbolique, très fort. Ensuite, on a travaillé pour l'adaptation. Il a emmené une partie de l'équipe à Varsovie. On a fini l'adaptation. On a été sur les traces du ghetto de Varsovie. Moi, j'ai fait une rencontre incroyable à ce moment-là avec cette femme qui nous a fait visiter le ghetto. Non, puisqu'il n'y a plus rien à visiter, tout a été rasé évidemment, mais sur les traces du ghetto, et c'était une femme d'une intensité, Esbietia, d'une intensité de vouloir tout nous montrer, de nous raconter l'histoire dans la grande histoire, de la mémoire qui était entretenue ou pas sur les lieux de mémoire, pourquoi dans la Pologne on entretenait tel lieu et pas tel lieu. Enfin, c'était absolument passionnant, et on avait à la fois une vue d'avion, et on était à la fois dedans et avoir une vue d'avion. Et puis surtout, moi, ce qui m'a troublé avec elle, c'était la nécessité absolue, la fièvre qui l'habitait, de dire voilà, il faut que cette histoire soit transmise. Et moi, je sais que certains soirs où par exemple c'est un peu difficile parce que c'est un spectacle qu'il faut quand même porter, je la convoque, voilà, comme d'ailleurs Yann Karski, enfin la figure que a créé Yannick Enel, convoque ses fantômes. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de soirs où je la convoque, elle, parce que elle m'a beaucoup impressionné. C'était très 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 émouvant d'aller évidemment à Auschwitz, de voir, Dieu sait que moi j'avais lu beaucoup de livres, comme je le disais, mais finalement de voir, d'être sur place, bah oui, voir, c'est pas pareil. D'être sur place, de voir cette immensité, Et d'ailleurs, j'avais pas beaucoup de mots en sortant, c'était juste j'étais un peu écrasé par je savais pas quoi d'ailleurs. Et heureusement, il y a un auteur, Georges Didier Burman, qui a sorti un livre qui s'appelle Écorce, très peu de temps après notre visite. Qui lui-même n'avait jamais voulu aller sur les camps, alors qu'il avait cette histoire dans sa famille. Il y allait, et il raconte cette visite avec des photos, et c'était merveilleux, parce qu'il a réussi à mettre des mots sur des sensations que je n'arrivais pas à exprimer. Et c'est un livre qui m'accompagne d'ailleurs encore, et qui a été très fort. Donc tout ça pour dire, je m'écarte un peu du sujet, mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette volonté de réunir des gens aussi divers, d'une génération pour qui cette histoire fait partie de leur histoire, de notre histoire mondiale, comment dirais-je, et de tout cet environnement que Arthur a créé, c'est sûr que ça est, c'est quelque chose qui vit dans le spectacle, c'est quelque chose qui est là tous les soirs, qui active le spectacle. Ouais.
Alors je vais me permettre, si tu veux bien, d'écarter dans la direction où tu allais, parce que sur l'idée d'être là à un endroit, on ne pourra jamais être dans le temps, changer, effectivement, mais j'ai en mémoire une personne assez semblable à laquelle tu faisais référence, qui à Nuremberg m'avait envoyé dans l'espèce de d'immense truc que Hitler avait pu construire pour faire diffuser sa parole, des choses qui nous rappellent la Rome antique tellement c'est immense, et insistait pour amener les gens là où Hitler se tenait pour comprendre les choses, sentiment qui avait été très perturbant pour moi, et j'ai eu du mal à mettre des mots dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, peut-être dans d'autres rôles aussi, mais de cette importance d'aller dans l'endroit, de mettre ses pas sur, est-ce que ça fait vraiment ressentir quelque chose de plus, enfin, est-ce que tu peux compléter davantage la réponse que tu as donnée?
Ça dépend des spectacles. Tout spectacle ne nécessite pas forcément d'aller sur les lieux. Quand c'est des spectacles d'un texte qui sort de nulle part, enfin, je veux dire, qui ne fait pas référence à quoi que ce soit, non, c'est... Il faut aller dans la trace des mots. C'est là où il faut faire le voyage. Mais sur un spectacle comme ça, oui, je pense que ça a été fondateur pour moi. Par exemple, ne serait-ce que, je me souviens toujours d'Isbietia, quand Arthur l'a appelé pour nous emmener sur les traces du ghetto. Je me souviens, elle était, en plus, c'était quelqu'un de très dur, très, mais dans le bon sens, très rêche, quoi, très à l'os. Elle avait dit à Arthur, OK, il me faut 8 heures. Si vous avez 8 heures, c'est possible. 8 heures, non, on les avait pas, il y avait des répétitions et tout. Bon, 6 heures, je peux pas faire en dessous de 6 heures. Et il y avait une sorte de radicalité comme ça qui me plaisait beaucoup. Et donc, par exemple, très concrètement, d'abord, je me suis rendu compte que le ghetto était au cœur de la ville. Alors que moi, j'avais un peu naïvement l'idée d'un ghetto, je sais pas, ghetto, ça voulait dire un peu loin, quoi. Non, t'étais au cœur de la ville, c'est comme si on prenait Rennes et puis tu mets en plein cœur de Rennes et sur une superficie gigantesque de plusieurs arrondissements parisiens. Par exemple, c'est comme si le cœur de Paris, tout le Marais, plus que le Marais d'ailleurs, autour du Marais, c'était un ghetto. Et avec la vie qui tourne autour, tout va bien, et à l'intérieur, on extermine, on emmène dans des trains. Donc ça, par exemple, d'éprouver, en marchant, parce qu'on a tout fait en marchant, la distance, la superficie du ghetto, ça, pour moi, je sais que ça m'a marqué dans mon corps. Le fait de marcher aussi, en plus, Yann Karski évoque beaucoup, enfin, le Yann Karski de VNL que je fais, évoque beaucoup les marches dans les rues de New York pour oublier, pour... Et je sais que cette chose-là que j'ai passée dans mon corps, il y a quelque chose qui passe dans le spectacle, qui passe dans les mots. En tout cas, quand je dois convoquer ces images de marge, d'immensité et tout, je convoque cette mémoire-là. Donc, je pense que parfois, c'est assez bénéfique et important, comme un travail souterrain. Personne ne va me dire « Ah oui, oh, j'ai l'impression qu'il a été dans le ghetto ». Non, c'est pas ça, mais les gens vont sans doute sentir une qualité de présence, de mémoire, d'imaginaire différente, ça c'est sûr.
Tu parlais aussi, il y a l'espace et puis il y a les mots. Quand on s'est retrouvé tout à l'heure, je t'ai trouvé caché derrière une immense pile de livres, alors que tu étais à table et avec plein de petites notes, enfin en tout cas des post-it. Visiblement, tu es comme beaucoup de personnes, enfin comme certaines, accompagné toujours d'une dizaine de livres qui pèsent lourd dans ton sac. Dans quelle mesure cela te nourrit ? Comment est-ce que s'articule ta lecture ? Parce que c'était des choses en plus, j'ai vu un peu de Victor Hugo et tout, qui ne sont pas forcément liées. Comment il se nourrit, cet artiste-là, ce Laurent ? Pourquoi il a besoin de tout ça ? Est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est l'artiste ?
Non, là, c'est en ce moment, c'est de manière très, très ponctuelle. C'est qu'on est en plein concours de l'école, du TNB, puisque Arthur m'a proposé d'être responsable pédagogique. Donc, je découvre, avec cette nouvelle casquette, tout ce nouveau champ de travail. Et là, on réfléchit au deuxième tour. Puisque le deuxième tour, on va voir, on a pas fait un premier tour sur dossier, avec les gens qui étaient en vidéo, avec des textes proposés. Et là, pareil, le deuxième tour, on va proposer nous-mêmes les textes, les scènes, particulièrement les scènes, parce que les scènes, les répliques seront données par les élèves du TNB qui sont sortants, qui vont bientôt quitter l'école. Et donc, on est dans la dernière ligne droite de choisir les scènes. Donc je ne me balade pas tous les jours. Je ne suis pas comme Denis Podalydès, qui est incroyable, un lecteur fou, merveilleux, qui lit partout, tout le temps. C'est très, très étonnant, très émouvant. Je ne suis pas à ce point-là. Moi, des fois, j'ai des problèmes de rythme. Moi, je trouve que je travaille beaucoup, que j'enchaîne beaucoup de spectacles. Je lis, et quand je joue sur un spectacle, je lis beaucoup du spectacle. Donc, c'est vrai que j'ai peu de moments de rêverie, on va dire, libre. J'ai toujours un peu, c'est toujours des rêveries un peu aiguillées, un peu intéressées. Mais en même temps, moi j'ai la chance, quand je découvre Yann Karski ou les textes de Yannick Enel, toute la littérature autour. Enfin, moi, mon métier me permet de faire mes humanités. Donc j'ai l'impression d'être dans une énorme université depuis 30 ans. Quoi. Donc c'est grâce aux auteurs, grâce aux metteurs en scène qui me plongent dans des projets auxquels j'aurais peut-être jamais imaginé penser sans eux. Donc je goûte ça. Voilà.
Et alors justement, quelle place tu donnes dans ces cas-là à l'intuition? Peut-être que tes humanités sont dirigées par les spectacles que tu acceptes parce que quelque part, il y avait quelque chose qui te poussait à s'intéresser à ce sujet-là.
Après, au début, bon, maintenant j'ai la chance d'être à un moment de ma vie où je peux choisir. Donc là, c'est le luxe absolu pour un acteur. C'est-à-dire, j'arrive et je peux choisir mes projets. Donc là, je goûte tous les jours cette chance parce que je sais que c'est une chance précieuse et rare. Après, au début de ma carrière, je choisissais moins. Donc j'allais là où on avait envie que je sois, donc, comme tout acteur. Heureusement, assez tôt, des gens bienveillants, intéressants, passionnants, cultivés, ont eu envie de travailler avec moi. Donc moi, j'ai pris la roue et j'ai découvert des auteurs. Je me souviens comme avec Thierry Bédard à mes débuts, textes comme Brice Parrain, Jean Paulhan, Michel Léris. Enfin voilà, je découvrais grâce à lui tout un pan de littérature que je ne connaissais pas. Après, il y a eu la rencontre avec Cadio grâce à Ludovic Lagarde et avec ce que Cadio m'a amené de tout le rapport à la littérature contemporaine, la poésie contemporaine, Proust, parce que c'est vraiment grâce à Olivier que j'ai lu Proust, qui a été le choc de ma vie. Et voilà, et puis après avec Arthur ou Pascal Rambert, ou avec Arthur qui me ramène tout son imaginaire. Moi je vais vers les gens, alors maintenant les gens vont vers moi aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que malgré moi, il y a quelque chose qui s'est affirmé de mon parcours. C'est vrai qu'on m'a renvoyé une fois, il y a quelques temps, pas si longtemps. Tiens, c'est marrant, mais vous avez fait très peu de classiques. Et je parlais de l'Avare, bon. Mais c'est très peu, c'est très rare. Là, à 95%, j'ai fait des adaptations de romans, des auteurs contemporains. Et puis c'est vrai, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Donc je pense que je ne réfléchis pas comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il y avait un flux que je remarque. On était plus venu me chercher pour des aventures un peu iconoclastes ou... littéraire ou contemporaine que pour jouer des classiques. Alors, bon, qui fait l'œuf de la poule ou la poule de l'œuf, je sais pas. Moi, je pense que maintenant c'est avec le recul, je me dis ça à l'époque, je savais pas du tout, mais moi au début, je pense que j'avais une vision du théâtre assez classique, voilà, je voulais jouer des rôles, enfin, je sais pas. Mais le théâtre classique, je pense que je m'y retrouvais pas. J'ai un drôle de corps, j'ai des grands bras, je sais pas comment dire, je ressemble pas à rien. Je pouvais pas être un jeune premier, je pouvais pas être un roi, je pouvais pas Racine, c'est compliqué. Donc j'avais besoin de pouvoir faire que les serviteurs, ou quand je faisais les amoureux, j'étais pas crédible. Enfin, je sais pas, et puis surtout, il y avait toute une histoire aussi. Je pense que quand tu abordes les classiques, moi je me dis, oh là là, mais attends, il y a tant d'acteurs qu'on jouait ça. Puis ah oui, je crois que la tradition, ça veut ça, oui, il faut correspondre à ça. Bon. Je crois que ça m'écrasait un peu, en fait. Enfin, je le vivais pas comme ça, mais je crois qu'avec le recul, je me dis, c'est ça, en fait, ça m'écrasait. Et d'un seul coup, des gens comme Thierry Bédard, mon très tôt, m'ont proposé, tiens, on pourrait faire un texte sur l'Afrique fantôme de Michel Léris. Bon, ok, le journal, très bien. Je découvre, moi, c'est passionnant. Et puis là, d'un seul coup, c'est un peu une terra incognita, où Ludovic Lagarde qui décide de monter des textes de Beckett pour son premier spectacle, mais pas des textes théâtraux, vraiment, les textes qui sont plus proches de sa poésie, qui sont très, genre, cette fois, l'impromptu d'Oyo, tout ça. Je découvre une autre terra incognita, ou qui finalement n'a pas été tellement arpentée. En l'occurrence, Michel Léris, personne n'avait adapté Michel Léris. Donc, à ce coup, c'était des territoires qui, pour moi, avaient beaucoup moins d'ancienneté, beaucoup moins de tradition. Et finalement, j'ai l'impression, je me dis, j'ai peut-être plus ma place là. J'avais l'impression de pouvoir rêver plus librement. Finalement, mon corps pouvait s'adapter à ça, puisque de toute façon, il n'y avait pas de traces d'autres corps. Et du coup, j'avais l'impression d'être plus comme, vous savez, les paysages dans la neige, quoi. On se dit, on va faire les premières traces, on va faire les premiers pas. C'est tellement excitant, émouvant. Et finalement, je pense qu'avec le recul, c'est ça. C'est que j'ai trouvé ma liberté dans des territoires qui étaient très peu arpentés. Et que finalement je me suis construit grâce à ça, et que le fait de revenir là récemment grâce à Ludovic Lagarde, mon compagnon de longue date de route, finalement je retrouve l'Avare mais chargé de toutes mes traversées de Cadio, de Rambert, de tous les textes contemporains, et finalement je le charge de ça, et d'un coup j'en ai moins peur, j'ai moins peur de la tradition, et je trouve que c'est le bon moment pour aborder finalement le classique. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, très tôt, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai plus de liberté de ce côté-là, de terra incognita. Et puis, peut-être se dire aussi, c'est quand même joyeux de pouvoir travailler avec les auteurs de son temps. C'est quand même très émouvant de travailler avec Cadio, de travailler avec Rambert. Tu dis, on fait le théâtre de maintenant. Et je ne sais pas ce qu'il en restera de cette trace. De toute façon, moi, en tant qu'acteur, quand je serai mort, j'aurai disparu dans les mémoires assez rapidement. Donc, autant être dans le présent. Donc, même si c'est important, je prouve un plaisir énorme à jouer l'Avare, mais je l'éprouve aussi en ayant goûté tant de textes contemporains, c'est-à-dire de participer à ces aventures-là. Donc je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça, mais tout ça pour dire que oui, les gens me choisissent, et maintenant je pense que les gens choisissent effectivement un certain parcours, une certaine manière de défendre les textes, quel type de texte j'ai défendu. Je pense que ça m'a forgé comme acteur, et que maintenant, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler avec moi justement à cause de ça, mais à l'inverse, je pense qu'il y a des gens qui ont énormément envie de travailler avec moi à cause de ça. Donc bon, bah, tu dis, et bah, tant mieux, voilà, c'est bien. Je ne sais plus, c'était Alain Cuny, grand acteur des années 50, grand acteur claudelien, très proche de Claudel, qui avait une voix comme ça, cette voix tellement marquée, marquante, et à qui on disait, oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un peu tout le temps la même chose, enfin, cette patte, enfin, comme ça. Et il avait répondu cette chose que je trouve admirable, il a dit, mais c'est tellement difficile de devenir quelque chose. Et je trouve que pour un acteur, ça m'a beaucoup parlé, cette phrase. Et oui, il faut qu'on devienne quelque chose, il faut qu'on soit un instrument très particulier. Je pense que c'est ça qui peut... c'est important. Et ça me parle beaucoup. Alors peut-être que je suis en train de devenir quelque chose et que les gens me renvoient ça. Ils ont envie de travailler pour certains avec cette chose et d'autres moins, mais en l'occurrence, ceux qui ont envie de travailler avec moi, j'ai envie de travailler avec eux, donc ça va.
Laurent, on te souhaite d'arpenter de grands territoires de liberté, que ce soit dans le classique ou dans le contemporain. J'ai justement te demander, puisque à l'origine de cette mise en scène, il y a une phrase forte pour Arthur autour du témoignage. Là, tu viens de m'en citer une, justement autour de devenir quelque chose. Est-ce qu'il y en a une, en tout cas, que les gens doivent particulièrement entendre, ou une qui t'anime particulièrement, que tu as souvent en tête, que tu pourrais nous dire afin d'achever cette interview?
Oh là là, évidemment, c'est là où je vais avoir le blanc. Non, il y a une chose, moi par exemple, il y a une chose que je me dis tous les soirs avant de jouer, qui est une citation de... Enfin, j'ai fait un mix, j'ai fait un petit mix. J'ai fait un mix de Strehler, hein, qui est, donc c'est le metteur en scène italien des années 50, 60, enfin juste dans les années 80, immense au Piccolo Teatro, qui avait une école d'acteurs, et qui disait à ses jeunes élèves, bien faire, bien jouer n'est pas une valeur en soi, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'un acteur. Donc ça, par exemple, c'est une phrase que je convoque, parce qu'en plus, il prolongeait ça, alors ça, et je trouvais ça beau, il disait, mais est-ce que vous avez un acteur qui... c'est terrible ce que vous avez décidé comme choix de faire ce métier, c'est terrible, c'est une respiration terrible. Parce qu'il y a un fil de Ferris qui fait mal son métier, bon, au mieux il est tétraplégique, au pire il meurt, quoi. Un acteur qui fait mal son métier est toujours applaudi à la fin, et c'est vrai. Et il dit bien faire, ce qui est, bien faire est noble parce qu'en fait ça sera dans votre secret, c'est-à-dire personne ne verra que vous faites bien ou pas, et donc bien faire dans le secret de votre art, c'est ça qui sera noble. Et j'aime bien cette idée du secret, et donc du coup d'une éthique qui est totalement intime et qui est à la fois d'une grande, qui te renvoie à une grande solitude et en même temps une grande exigence, et puis je sais pas, qui te crée une forme de noblesse. Et puis en fait, je la combine souvent avec une petite formule qui finissait la première pièce qu'on avait montée d'Olivier Cadio, qui s'appelle pourcentage de présent égale 100. Le pourcentage, vraiment, voilà, pourcentage de présent égale 100. Et je me dis, mais c'est génial, il a trouvé la formule parfaite de l'acteur, c'est qu'il faut être ici et maintenant. C'est un peu une tarte à la crème, mais beaucoup d'acteurs sont soit avant, soit après. Mais c'est plus difficile d'être ici et maintenant. C'est soit devant, soit derrière, mais d'être là au moment même, c'est plus compliqué. Et voilà.